إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قل والله جل جلاله ورمسي الله تبارك وتعالى celui qui nous a facilité ce lien, cette rencontre, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette rencontre soit bénéfique et utile pour nous dans ce bas monde et l'au-delà. La première question qui a été posée à Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, marier la grande avant la petite. La question est, dans notre pays, nous avons une tradition. En fait, je ne sais pas si cela est effectivement une tradition ou si cela fait partie de la religion. Et je souhaiterais justement savoir ce que dit la religion à ce sujet. En fait, chez certaines familles, lorsqu'un prétendant se présente pour demander en mariage la plus jeune fille de la famille, on la lui refuse. Et ce, par égard envers la plus grande sœur, plus âgée, que personne n'est venu demander en mariage. Donc, Cheikh Ibn Baz, voici sa réponse, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est une mauvaise tradition. Et il n'est pas permis d'agir en fonction de celle-ci. Aussi, il est obligatoire au tuteur de la fille de la marier s'il se présente à elle un prétendant disposant des caractéristiques requises et d'un bon comportement. Donc ici, si toutefois, bien sûr, la fille est d'accord pour ce mariage, il est obligatoire de la marier même si la fille est la plus petite de la famille et qu'une de ses grandes sœurs ne soit pas encore mariée. Chéri nous dit, à cela j'ajoute qu'il n'est pas permis de retarder le mariage de la plus petite jusqu'à ce que se marie sa sœur aînée. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, si un prétendant vient demander la main de votre fille et que vous constatez qu'il dispose d'une religiosité certaine et un bon comportement, alors mariez-le. Sinon, il en résultera une tentation sur terre et un grand mal. Par ailleurs, attendre que l'aîné se marie pour marier, ceci est injuste. De même que cela constitue une entrave à leur intérêt à toutes deux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté dans le Bukhari, prémunissez-vous de l'injustice, car elle sera ténèbre le jour de la résurrection. Donc Cheikh Ifini nous dit, je recommande au tuteur de se prémunir contre le châtiment d'Allah en lui obéissant et d'être vigilant vis-à-vis du mariage de leur fille en les mariant à des hommes pieux, tout en prenant garde de leur causer du tort et de retarder leur mariage sans raison valable. Qu'Allah nous mène tous à la réussite. La question qui suit, qui a été posée à Cheikh Ibn Taymin, rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah vous bénisse, l'auditrice de Jeddah s'interroge sur le fait de porter une bague afin de distinguer une jeune fille ou un jeune homme comme étant demandé en mariage ou non. De même qu'une fois marié, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam portait-il ce genre de bague, comme je l'ai entendu de certains, qu'Allah vous récompense par un bien. Ici, ce qui est visé, c'est concernant les alliances, le fait de porter une alliance. La réponse de Cheikh Ibn Taymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, le port de l'alliance obéit à deux types de considérations. Dans la première, elle correspond à une croyance chez les deux conjoints, à savoir que leur union subsistera. C'est pourquoi on voit, par exemple, l'homme inscrire sur son anneau le nom de l'épouse et la femme inscrire sur le sien le nom de l'époux. Cela n'est pas du tout permis et même interdit, car il s'agit là d'une forme de rite conjuratoire qui relève du polythéisme mineur. En effet, l'époux et l'épouse ont ainsi eu pour croyance qu'une chose donnée peut constituer une cause permettant d'obtenir un bien. Et ce alors qu'ils n'ont à ce sujet aucune preuve sur le plan religieux. Aussi, quiconque affirme qu'un élément peut constituer une cause permettant d'obtenir un bien ou de repousser un mal sans preuve religieuse a commis un acte de polythéisme mineur. Et ce pour avoir ajouté foi en une cause qu'Allah Jalla Jalalu n'a pas décrété comme tel. Dans la seconde, chacun des époux porte la bague uniquement dans le but d'exhiber son nouveau statut d'une personne qu'on a demandé en mariage ou de quelqu'un déjà marié. Et Cheikh, il nous dit, mon avis sur cette question n'est pas arrêté, car certains savants ont indiqué que cette tradition était d'origine chrétienne et qu'elle prend source de leur rite. Et il ne fait aucun doute que le musulman s'écarte de cela par précaution et s'en éloigne pour ne pas avoir le sentiment de suivre les chrétiens, qui sont les premiers à avoir appliqué cette pratique. Quant au fait d'envoyer un type de bijou à la femme que l'on va demander en mariage, en se présentant chez elle, il n'y a aucun problème puisque ce sont des cadeaux qui sont pour objectif d'établir une attirance réciproque chez les deux époux. Donc ici, la question qui suit, qui a été posée à Shir ibn Baz, rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, yani parmi les causes du divorce, de ne pas regarder convenablement sa future épouse. La question qui a été posée, parmi les causes de divorce, il y a le fait que l'époux n'ait pas regardé suffisamment sa future femme avant de l'épouser. Or, notre religion le permet. Quel est votre commentaire à ce sujet? Donc, Shir nous répond, dans le sens de sa parole, il ne fait aucun doute que le fait qu'un homme ne regarde pas sa future femme avant de l'épouser fait partie des causes de divorce. Et ce, lorsqu'il se rend compte qu'elle n'est pas comme on lui a décrite. C'est pour cette raison qu'Allah, le Très-Haut, a prescrit au mari de voir sa femme avant le mariage. Lorsque cela lui est possible, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit à ce sujet, « Lorsque l'un de vous demande une femme en mariage, s'il a la possibilité de voir en elle ce qui l'invitera à se marier avec elle, qu'il le fasse, car cela est même à susciter une attirance entre eux. » Il a rapporté le hadith par Ahmed Abu Daoud et dans une bonne chaîne de transmission. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aussi, comme il est rapporté dans Ahmed et Tirmidhi et Nasa'i ou Ibn Majah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, Al-Mughira ibn Sha'bah, qui a raconté qu'il a demandé la main d'une femme et que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lui a dit en apprenant cela, regarde-la, car cela est plus à même de susciter une attirance entre vous. Muslim rapporte dans son sahih d'Abu Hurayrah radiallahu anhu qu'Allah l'agré, un homme ayant rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il venait de se fiancer avec une jeune fille. Et ce dernier lui demanda, « L'as-tu regardé ?»« Non, » répondit l'homme. « Va et regarde-la, » lui ordonna alors le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc, Shir nous dit, tous ces hadiths démontre la légitimité du regard en direction de la fiancée avant la conclusion du contrat de mariage. Car cela est de nature à garantir la réussite de ce mariage et la concorde au sein du couple. Il va de soi que cette permission l'a parfaitement conçue et fait d'elle ce qu'a été l'arche de Noé, de manière à ce que ceux qui y restent fermement attachés soient sauvés et que ceux qui l'abandonnent périssent. As'alullah jalla jalalu an yaj'alani wa iyyakum min hudatil muhtadin wa min ibadihi salihin wa la dhalin wa la mudhillin ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك